Me semble qu'il est important que l'on comprenne le sens de ce que l'on fait dans une perspective qui inclut un peu tous les aspects de la vie et aussi certainement tous les aspects de la pratique. Donc, dans la tradition bouddhique, on voit bien que le but de la méditation, nous l'avons mentionné quand même de nombreuses reprises, c'est la liberté. Et si nous nous engageons dans un chemin spirituel, en général, ce n'est pas parce qu'on suit une tradition familiale, parce que pour la plupart d'entre nous, le chemin spirituel dans la tradition bouddhique n'est pas notre tradition familiale, non par obéissance, mais parce que nous faisons un choix de nous engager dans un chemin spirituel, ce qui ne veut pas dire nécessairement se sentir appartenir à une tradition ou à une autre, mais quand même s'engager dans un chemin spirituel. Et si le but de la méditation est la liberté, le but de tout le chemin spirituel dans la tradition bouddhique, c'est la liberté. Et il ne peut pas être réduit uniquement à la pratique de la méditation. On a quelquefois un peu cette tendance à penser que c'est ce en quoi consiste notre chemin spirituel, c'est la pratique de la méditation. Même si c'est un aspect important, un aspect enrichissant, le danger avec ceci, c'est qu'on oublie les autres aspects du chemin spirituel. Et que d'une certaine manière, en oubliant les autres aspects du chemin spirituel, alors à ce moment-là, c'est un peu comme si on essayait d'emplir un panier percé. Donc à nouveau, non pas par tradition familiale, puisque c'est en général pas le cas, ni par obéissance, ni parce que on s'engagerait dans une certaine tradition, mais parce qu'on a toujours à l'esprit que l'essentiel, ce qui motive notre cheminement spirituel, c'est une quête de liberté. Évidemment, liberté qui serait à définir, il faudrait dire ce que l'on entend par liberté, mais on peut déjà le poser ici comme enjeu, comme raison d'être de notre pratique méditative. Et ceci revient constamment dans la tradition bouddhique. Il est dit que ce par quoi elle est concernée, c'est la souffrance et la fin de la souffrance, mais souffrance non pas uniquement dans le sens de difficulté, de douleur, mais souffrance dans le sens de limitation, de conditionnement, et la fin de la limitation, la fin du conditionnement, c'est bien l'acquisition de la liberté. Donc la liberté représente un enjeu plus important qu'une certaine maîtrise du processus méditatif. Pourrait très bien imaginer que certaines personnes développent certaines capacités méditatives, ce qui représente un certain intérêt, un certain enrichissement, mais il ne faudrait pas oublier que ceci n'a de sens que dans une quête de la liberté. Si c'est simplement pour lorsqu'on est assis sur un coussin de méditation, pouvoir avoir des expériences qui seraient intéressantes ou inhabituelles, il est tout à fait possible de développer des expériences extrêmement inhabituelles, mais en elles-mêmes, elles ne présentent aucun intérêt spécifique. Si ce n'est peut-être de découvrir les capacités qu'a la conscience humaine, qui sont certainement beaucoup plus vastes qu'on l'imagine. Donc le chemin spirituel dans la tradition bouddhique est organisé de différentes manières, sous différents aspects ou facettes. Ce soir, j'aimerais l'évoquer sous trois aspects particuliers que sont la générosité, la moralité et la méditation. Et lorsqu'on dit que le Bouddha a mis en mouvement la roue de la loi, comme ça qu'on parle en termes un peu techniques lorsqu'il a commencé son enseignement à Bénarès, à Sarnath. On dit qu'il a mis en mouvement la roue de son enseignement ou de la loi. Et cette roue, elle comprend trois parties, le moyeu, les rayons et la jante, qui chacune représente un aspect de la pratique. On pourrait dire que la jante représente la moralité, le moyeu la générosité et les rayons la méditation. Donc ces trois aspects sont des aspects essentiels du chemin spirituel et qui ne sont pas des choses séparées. On aurait une attitude particulière dans la méditation, une autre dans la moralité et une autre dans la générosité. C'est une attitude similaire qui est en jeu dans les trois aspects de la pratique, mais on voit bien qu'en parlant de générosité, moralité et méditation, on inclut aussi tous les aspects de la vie quotidienne, puisque c'est bien dans la vie quotidienne que la possibilité de la générosité surgit, que la question de la moralité surgit. Évidemment, la question de la méditation, de l'attention, de la présence attentive peut aussi surgir dans la vie quotidienne, mais elle surgit de manière plus manifeste en ce qui concerne la générosité et la moralité. Et lorsqu'on parle de générosité, de moralité, on peut quelquefois avoir l'impression que c'est s'imposer des règles ou suivre un modèle. Générosité peut avoir un aspect plus positif, mais quelquefois dans ce sens d'obligation, il y a quelque chose de contraint. Et la moralité aussi, la moralité c'est s'obliger à suivre des règles. Alors ça n'a pas bonne presse étant la moralité. Comme si on aimerait bien se libérer des règles justement pour accéder à une plus grande liberté. Mais ce qu'on va remarquer, peut-être dans cette approche ici comme participant du chemin spirituel, c'est que justement, et la moralité et la générosité sont des moyens d'atteindre une plus profonde liberté, et non pas du tout le fait de s'imposer d'autres contraintes. Et ça, c'est la motivation qu'il est important d'avoir en tête. Sinon, ces pratiques, elles perdent leur essence, elles perdent leur sens. Si tout d'un coup on s'adonnait à ces pratiques-là par obligation, parce qu'on suit un règlement, on perdrait la perspective qu'elles sont en vue d'une plus grande liberté. Donc qu'est-ce qu'elles ont en commun, dans le fond, ces trois pratiques, générosité, moralité et méditation? Quelle est l'essence qu'elles partagent? C'est le lâcher-prise. Dans les trois cas, il s'agit d'un lâcher-prise. Donc non pas d'une accumulation de quelque chose, d'une sorte de discipline qui correspondrait à s'imposer un règlement, qui pourrait présenter certains intérêts, avantages, mais ce n'est pas ce dont il s'agit ici, c'est un lâcher-prise. Le grand maître Mahasi Sayadaw disait « Pourquoi est-ce que nous méditons ? » afin de ne pas saisir, c'est-à-dire en lâcher prise. Donc on se rend compte que l'essentiel de la pratique méditative est en lâcher prise, mais ce lâcher prise, il est aussi en jeu dans la générosité, dans la moralité. On pourrait dire que dans la générosité, dans la moralité, il est presque plus manifeste, ou son absence de lâcher prise est plus manifeste. Dans la méditation, c'est plus subtil, et personne ne regarde, personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Dans la moralité, dans la générosité, il y a quelque chose de manifeste, puisque ça implique aussi une certaine position corporelle, une certaine action qui, elle, se perçoit clairement. Pour soi-même, d'ailleurs, on n'est pas là pour pratiquer un chemin spirituel pour être sur le regard d'autrui, mais soi-même, on peut prendre conscience de manière plus claire du lâcher-prise ou de l'inverse, de continuer à saisir. On a parlé l'autre jour de la présence méditative, de la pleine conscience qui nécessite ou qui implique l'absence de désir, d'aversion et de confusion. ce qui est enseigné dans la deuxième des nobles vérités, parler des trois types de soif, soif pour les plaisirs sensoriels, soif pour la non-existence, qui est l'aversion, et soif pour l'existence, qui est la confusion. Et que tant qu'il y a cette attitude, tant que nous sommes sous le pouvoir du désir, de l'aversion, de la confusion, il ne peut pas y avoir de présence méditative, de pleine conscience. Qui se situe dans la méditation à un niveau assez fin, un niveau assez subtil de rapport à l'expérience présente. Mais ces enjeux sont les mêmes dans la vie quotidienne. Et la générosité nous mettra en face de désir-attachement. La moralité face à l'aversion et à la haine. Et la méditation, plus spécifiquement, face à la confusion. Qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confusion dans l'absence de générosité, qu'il n'y a pas de confusion dans la moralité, mais ce qui est caractéristique de la générosité ou de l'absence de générosité, c'est l'attachement. Dans la moralité, c'est la haine et l'aversion. Donc ces trois types de pratiques vont, elles aussi, questionner, mettre en lumière la présence ou l'absence de désir attachement, aversion haine et confusion. Donc il y a bien là une unité, ce n'est pas des choses séparées, il y en aurait la méditation d'un côté et puis les autres activités de la vie quotidienne. C'est une même pratique, un même esprit. Lâcher prise, donc ce qui est assez caractéristique du chemin spirituel bouddhique, mais on pourrait dire de toute mystique. Quand on lit les textes, il est évident qu'il ne s'agit jamais d'accumuler de l'information, de la connaissance, mais qu'il s'agit toujours de lâcher prise et que cette saisie constamment est ce qui nous enferme, nous conditionne. Donc, ceci veut dire quelque chose d'extrêmement important. Si un chemin spirituel, donc ici ou dans d'autres traditions mystiques, se base sur un lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saisie, il n'y a rien à acquérir qui ne serait pas là. Ce que ça veut dire, ça veut dire que tout est toujours déjà là, mais que nous nous encombrons de choses qui ne nous permettent pas de prendre conscience que c'est déjà là. Autrement, il faudrait que ce chemin spirituel nous permette d'acquérir des choses qui ne seraient pas là. Donc tout est toujours déjà là, mais nous nous encombrons de plein de choses par cette saisie constante qui fait que nous ne sommes pas libres. Donc pour parler tout d'abord de la générosité, qui met comme enjeu le lâcher prise à l'attachement. Donc la générosité n'a pas comme point essentiel de vouloir le bonheur d'autrui, ça c'est la bienveillance. On comprend très bien le fait de vouloir que autrui soit heureux, ce qui peut être mis en jeu par un acte de générosité ou autre activité. La bienveillance peut motiver la générosité, mais l'acte de générosité est très clairement défini dans les textes comme un lâcher prise de l'attachement. Et cette formulation est très claire, c'est-à-dire que si je donnais quelque chose à quoi je ne tiens pas pour m'en débarrasser, on ne peut pas dire que c'est faire un acte de générosité. Donc il y a bien ici un enjeu d'attachement dont je prends conscience et que je vais pouvoir lâcher. On pourrait dire que dans un premier temps, pour qu'il y ait générosité, il faudrait qu'elle nous coûte quelque chose, puisqu'il y aurait un lâcher prise à l'attachement. Mais si on approfondit un petit peu la chose, on se rend compte que la possession, en fait, elle nous possède plus que nous la possédons. On est plus victime de nos possessions que maître, possédé par nos possessions, finalement. Des choses qui nous encombrent. Si on voit certains maîtres de l'Inde, notamment, qui vivent dans le plus grand dénuement, n'a pas l'impression qu'il manque de quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on acquiert au fil des années plus de choses qu'on a l'impression de vivre plus pleinement ou de vraiment s'être enrichi. On a un peu plus de choses à débarrasser si on déménage, mais on ne voit pas vraiment le gain, même si sur le moment, cette nouvelle chose qu'on acquiert peut sembler être vraiment quelque chose de ayant une valeur. Donc cette manière de confondre, dans le fond, l'être et l'avoir, comme si le fait d'avoir plus augmenterait notre être. Mais l'encombre ne l'augmente pas. Donc si on pense que le lâcher prise des possessions, une sorte de perte, c'est parce qu'il y a là une confusion. Croire que les possessions ont une valeur en elles-mêmes. Mais c'est lorsque l'on réalise combien, dans le fond, cet attachement nous tient, nous emprisonne, qu'à ce moment-là, il peut y avoir un lâcher-prise et aussi une prise de conscience de la liberté que ceci implique. Et la générosité est une pratique extraordinairement intéressante, avec de nombreuses facettes. Les aspects les plus manifestes, c'est lorsque nous sommes sollicités, par exemple dans les villes, par les sans-abri, les mendiants qui viennent nous solliciter. Il y a là quelque chose d'intéressant, plus que quand on reçoit un papier, une lettre qui nous invite à faire un don. C'est bien, mais on n'a pas un contact humain dans le fait d'être face à un autre être humain. Il y a quelque chose d'une richesse immense. Il y a dans les réflexions de Simone Weil des choses extraordinaires que je trouve nulle part ailleurs, une sorte de perception très perspicace de l'enjeu qu'il y a dans ce rapport humain. Elle dit, nous avons inventé la distinction entre la justice et la charité. On a inventé la distinction. Il est facile de comprendre pourquoi notre notion de justice dispense celui qui la possède de donner. Vous voyez, elle met quand même le doigt sur quelque chose d'assez important. C'est-à-dire, la générosité, c'est quelque chose que je peux avoir le luxe de pratiquer ou pas. Voilà. Mais si on voit que c'est une question de justice, alors dans ce cas-là, c'est un peu différent. Que pour elle, le juste est généreux, et le généreux est juste. C'est un acte de justice, et non pas une sorte d'acte gratuit, comme ceci, auquel on pourrait s'adonner. Et ça change un peu la perspective, si on imagine ceci. Donc lorsqu'il y a rencontre avec une personne qui nous sollicite, il y a évidemment, nous avons la totale liberté de donner ou pas. Et ça, c'est un fait important. Si nous étions obligés, il n'y aurait pas de notion de générosité, il n'y aurait pas de lâcher prise. Ce serait simplement une obéissance. D'ailleurs, la personne le ressentirait. Qui recevrait un acte de générosité par obligation. Ce ne serait pas vraiment une générosité. Si vous voulez, c'est ce qui se passe quand on va dans un magasin. On reçoit quelque chose, il faut bien payer. Ce n'est pas un acte de générosité. Elle est gentille, la vendeuse, t'as vu ce qu'elle m'a donné. Allez, je lui donne un peu d'argent. Non, il y a là, d'ailleurs, dans le rapport humain, par rapport à un vendeur, une vendeuse, par rapport à un serveur, une serveuse dans un restaurant, le rapport humain est complètement différent. C'est un rapport d'obligation. Il n'y a pas d'ouverture. Il faut que chacun fasse bien son travail. Mais dans le rapport à des mendiants, c'est différent. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de bien faire son travail. On est simplement dans une totale liberté. Et la personne qui reçoit dans la mesure où elle est encore bien sobre, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans des états de santé assez fragiles, mais elle se rend bien compte que c'est un acte de liberté, que ce n'est pas une obligation. Et là, tout d'un coup, il y a la rencontre de deux êtres humains qui ne sont liés par aucune obligation. Non pas des liens familiaux, non pas des liens qui sont les liens de contrat, si vous voulez, tacite dans le fait d'acheter quelque chose ou d'être au restaurant où le serveur, la serveuse doit bien se comporter parce qu'ils font leur travail. Ici, il y a une totale gratuité. Il y a quelque chose d'extrêmement subtil qui se passe à ce moment-là. Et qu'il serait dommage de ne pas en prendre conscience. Cette totale liberté que j'ai de dire oui ou non. Et l'autre personne, évidemment, le sait. Elle se rend bien compte si je donne que ce n'est pas par obligation. Je me rappelle une expérience particulière. J'en ai eu pas mal de ce type-là parce que c'est une situation qui m'intéresse beaucoup, mais je me rappelle à Avignon, il y a quelques années, ça devait être 10h, 10h30 du matin, il y avait deux clochards, comme on les appelait à l'époque, c'était un joli nom, les clochards, qui certainement avaient déjà bu un petit peu, parce qu'ils n'avaient pas l'air tout à fait clairs, mais enfin, bon, ils faisaient la manche, et j'aurais donné quelque chose, rien d'exceptionnel d'ailleurs. Et les deux m'ont regardé avec un regard complètement clair. Et tout d'un coup, il y avait la rencontre de trois personnes. Aucune obligation, donc tout d'un coup, c'était un rapport humain. Sans autre contexte ou signification que trois êtres humains qui se rencontraient. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'ils avaient l'air assez confus avant, et à ce moment-là, ils se sont arrêtés, m'ont regardé. Et dans les rapports humains, il me semble que c'est les rapports, parmi les rapports les plus riches, par certains rapports privilégiés, sont ces rapports qui ne sont pas basés sur une obligation. Notamment les rapports avec les sans-abri. Donc quelque chose de très spécial qui se passe. Et je crois que ça peut se passer que dans la mesure où celui qui donne ou celle qui donne le fait en toute liberté. Non pas par obligation, parce que j'ai dit que cette semaine, j'allais donner trois fois. Ça pourrait être un choix, mais il y aurait quelque chose qui se perdrait dans cette manière de s'obliger. On peut se poser une question. Le grand maître Shantideva l'a exprimé, l'a formulé de cette manière-là. Qu'est-ce qui me permettrait de dire non ? De quel droit je dirais non ? C'est une drôle de question. J'ai bien le droit, ça m'appartient, ce qui est dans ma poche. Mais c'est pas évidemment là que se pose la question. C'est pas une question de droit légal. C'est humainement. Qu'est-ce qui me permettrait de dire non ? Si on choisit de dire non, il y a là quelque chose de... Un pouvoir qu'on prend, évidemment. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit toujours donner et qu'il s'agit d'avoir plus aucun discernement. Ce n'est pas du tout ceci. Mais c'est d'accepter d'être dans cette situation où, finalement, on est questionné. D'ailleurs, souvent, on n'aime pas ces gens-là. Il suffit de voir comment les gens les évitent. Simone Weil cite une vieille chanson espagnole qui disait « Il n'y a rien de tel que la pauvreté pour être invisible. » On ne veut pas les voir parce qu'ils nous embêtent, ils nous questionnent. Faut tout d'un coup réfléchir. On est là, ils nous sollicitent, ben on peut pas... mince, on était sur le mauvais trottoir, on peut pas faire comme si on l'a pas vu. Donc maintenant, tout d'un coup, on est devant cette situation où il faut choisir. Donc, bon, choisir la liberté ou la contrainte. Savoir où se situe la liberté. Et c'est extraordinaire comme on peut trouver des excuses. On ne peut pas donner à tout le monde. général, on rencontre une ou deux personnes par jour. Si on donne une toute petite piécette, je crois qu'on pourrait même donner à tout le monde. Mais enfin, voilà, on ne peut pas donner à tout le monde. Ou alors, une manière un peu simple, de dire, voilà, c'est des alcooliques ou des drogués. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le discernement, mais faut être bien attentif pour voir si ce n'est pas des manières assez rapides de régler l'histoire. Un psychiatre avait passé 3 semaines à Paris avec les sans-abri. Elle faisait remarquer que souvent ils sont à un degré d'alcoolisme que de leur dire faut plus boire, c'est complètement ridicule. Ils sont dans un degré où il faut qu'ils boivent. C'est pas possible de pas boire pour eux. Donc, vouloir leur donner des leçons de morale à ce moment-là, c'est un peu tard. À nouveau, ceci ne veut pas dire qu'il faille toujours donner, mais se méfier des manières d'éviter d'être face à cette liberté. Quelle bonne raison je pourrais avoir pour donner? Et si on avait une bonne raison, tout le monde donnerait. Il n'y a pas de bonne raison pour donner. Mais je peux, dans la situation, me rendre compte ce qu'il y a de plus riche. Où se situe ma liberté? Où se situe ma rencontre avec un autre être humain, dans sa totalité? J'ai encore une ou deux phrases de Simone Weil, je ne voulais pas tout recopier le livre, mais ce que j'aurais pu, parce qu'il y a vraiment des remarques d'une grande sensibilité. Elle dit ainsi, la compassion à l'égard des malheureux est une impossibilité. Quand elle se produit vraiment, c'est un miracle plus surprenant que la marche sur les eaux ou la résurrection des morts. Trouve que c'est quelque chose de tellement rare, de tellement précieux et extraordinaire quand il y a un vrai acte de compassion qui se passe, un vrai acte de générosité. Parce qu'il y a vraiment cette rencontre d'être humain complet. Je continue avec Simone Weil. Elle dit, celui qui traite en égo ce que le rapport de force met loin en dessous de lui, donc on imagine bien qu'il y a un rapport de force avec les sans-abri, un rapport de force économique ici, mais celui qui arrive ou celle qui traite en égo ces personnes-là, elle dit, leur fait véritablement don de la qualité d'être humain, dont le sort les privait. Donc ce n'est pas tellement juste l'argent qui est donné, c'est dans le fait de traiter la personne d'égal à égal, sans s'appuyer sur une sorte de hiérarchie. C'est là qu'on pourrait voir qu'une charité qui se baserait sur un sentiment de supériorité enlèverait toute la richesse à ceci. Mais le fait de voir l'autre sur un plan d'égalité, de lui parler, évidemment, dans un langage égalitaire. Donc elle dit que c'est donné à cette personne son humanité dont la situation la privait. Je ne vais pas passer dans toutes ces analyses extrêmement subtiles qu'elle donne sur le fait que le malheur semble priver les personnes d'une certaine dignité humaine par la situation. Mais évidemment, cette humanité qui est donnée quand on traite l'autre d'égal à égal, c'est une humanité que l'on reçoit aussi. Elle va dans les deux sens. On ne peut pas la donner si on n'est pas soi-même dans ce rapport. Donc on peut sentir cette pratique de la générosité. Ici, je prends les exemples des sans-abri ou des clochards, parce que ce qui m'intéresse, c'est le rapport humain qui est là, très riche. Mais évidemment, il n'y a pas que le don d'une piécette à des gens qui mendient, il y a tous les autres dons, le don de son temps, le don de ses compétences, et pas seulement aux mendiants ou aux clochards, mais qui va aussi dans le sens d'un lâcher-prise. Si je n'ai pas le temps d'aider les gens de ma famille et autres, pour partager un peu de mes compétences, pouvez bien imaginer des gens qui sont très égoïstes de leur temps, qui n'ont jamais le temps pour les autres. Plus vous imaginez avoir le temps, hein, Dieu sait ce que ça veut dire. On ne sait pas où ils l'ont, ce temps qu'ils ont, d'ailleurs, ou qu'ils n'ont pas. La meilleure manière de s'en priver, c'est justement de ne pas en avoir, surtout pour les autres. Donc, la générosité se situe dans de nombreuses situations particulières. Et qui va toujours dans l'exploration d'une plus grande liberté ou non, d'un lâcher prise par rapport à soi-même. Dans le dictionnaire, l'idée de la générosité, c'est le fait de bien vouloir sacrifier son intérêt. Mais c'est un peu une manière quand même limitée de voir, parce que l'intérêt, il n'est pas du tout dit qu'il va dans le sens de l'attachement. Au contraire. On pourrait dire que c'est l'inverse, que la générosité va dans le sens de protéger ses intérêts, dans le sens où l'intérêt primordial serait la liberté. Mais dans une pratique comme la générosité dans la vie quotidienne, elle n'est pas moins porteuse de la liberté qu'une le serait l'expérience méditative. Elle l'est tout autant. Quand, à la fin d'un stage, comment est-ce qu'on continue la pratique dans la vie quotidienne? Ça veut dire comment est-ce qu'on continue la pratique de la méditation dans la vie quotidienne? Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Comment est-ce que l'on continue cette exploration d'une plus grande liberté, d'une moins grande confusion? Et nous avons beaucoup d'opportunités dans la vie quotidienne. On peut imaginer l'extrême générosité d'un automobiliste qui laisse sa place de parking. Ça, c'est une générosité. Moi, bon, j'ai pas de voiture, je risque rien. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de le faire. Et on a bien l'impression, quand on voit les gens pratiquer la générosité, qu'il y a une plus grande liberté que ceux qui ne peuvent pas. C'est aussi quelquefois intéressant d'être dans un lieu où il y a personne ou deux qui mendient, d'observer la réaction générale des gens. Combien elle est assez peu ouverte, on a vraiment l'impression de voir l'enfermement de chaque personne. Et quand tout d'un coup passe une personne qui d'une manière légère ou ouverte donne, il y a un autre sentiment. On a vite fait de choisir son modèle si on a besoin d'un modèle. Donc voilà le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la moralité. Donc la moralité, c'est aussi un lâcher prise. C'est le lâcher prise à l'intention de nuire. Et là aussi, c'est très précise ces pratiques, comme la générosité qui est lâcher prise à l'attachement, la moralité lâcher prise à l'intention de nuire. Ce qui veut dire que pour pratiquer la moralité, il faut avoir l'intention de nuire. Sinon, on ne peut pas lâcher prise à quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est vrai, c'est une pratique, et le fait que les Bouddhas, les grands disciples du Bouddha ne peuvent plus pratiquer la moralité parce qu'il n'y a pas d'intention de nuire. Et c'est intéressant, c'est pas simplement une sorte de passivité où on ferait rien de mal. Pour imaginer une personne dans une grotte qui, évidemment, n'a pas de situation qui pourrait l'engager à agir de manière négative. Eh bien, dans ce cas-là, on peut pas dire qu'elle pratique la moralité. Donc c'est vraiment une pratique dans le sens où lorsque surgit une intention de nuire, qu'on s'en rend compte et qu'on la laisse tomber. Donc une pratique, pas simplement une sorte d'état parce qu'on a de la chance de ne pas avoir trop de problèmes ou de sollicitations. Je crois aussi que là, on se rend compte assez facilement de la liberté que ceci implique, le lâcher prise du fait de vouloir nuire. On pourrait évoqué de nombreux cas, de cas de personnes qui peut-être auraient des bonnes raisons de vouloir nuire à une personne parce qu'elles ont été victimes de cette personne. Toutes les bonnes raisons de vouloir nuire. Mais dans le fait de vouloir nuire, ces personnes sont emprisonnées aussi. Et le moment où elles peuvent laisser tomber ce vouloir nuire à cette personne qui, on pourrait dire, le mériterait, entre guillemets, la personne se libère de ce vouloir nuire. Il ne s'agit pas de dire elle ne le mérite pas, l'autre personne qui a mal agi. Parce que ce n'est pas ça l'enjeu. Tout le problème du pardon, comme si pardonner c'était une fleur à l'autre personne. Mais évidemment, le pardon c'est une fleur qu'on se fait à soi-même. On sent bien quand des personnes disent « jamais je ne pourrai pardonner ». On a l'impression que ces personnes sont enfermées, même si elles ont eu des situations difficiles. On comprend bien que le pardon soit difficile, mais elles s'enferment. C'est elles qui se martyrisent. Et le jour où elles pourront pardonner, eh bien, elles se libéreront de quelque chose, d'un fardeau. Alors lâcher prise aux intentions de nuire, ce n'est pas que des intentions physiques. Prendre un bâton pour aller taper sur le voisin ou la voisine, évidemment, ça c'est quelque chose d'assez manifeste. Et puis on a peut-être pas mal l'opportunité avant d'agir, de réfléchir, mais quelquefois, simplement des manières de parler qui sont négatives à propos d'une autre personne et qui peuvent faire beaucoup de mal. J'étais aux États-Unis dernièrement. Une amie vient d'acheter une maison pour faire un centre de méditation, très joli endroit d'ailleurs. Et puis des personnes se sont mises à la calomnier, je la connais bien, pour des choses qu'elle n'a pas du tout faites. Mais cette calomnie lui nuit, parce que alors les gens disent « est-ce qu'on fait bien d'aller là-bas ? On a entendu ces choses-là. » Vous voyez, des paroles tout d'un coup négatives, et c'est pas possible de les défaire, on ne peut pas aller vers tout le monde dire « mais non, c'est de la calomnie. » Donc par des mots qui peuvent paraître anodins, on a juste transformer la réalité. Et tout d'un coup, cette personne se trouve dans une situation de douleur, simplement par des mots malveillants. Donc l'intention de nuire, dans une manière, par une manière très habile de formuler sans formuler, mais de laisser entendre, dont les conséquences peuvent être terribles. Donc les mots peuvent être extrêmement violents aussi. Rappelle il y a quelques années ce politicien qui avait été conduit au suicide par des calomnies. Donc il est aussi important de faire attention ou de pratiquer aussi ce lâcher prise par rapport simplement à des mots un petit peu plus tranchants qu'il serait judicieux ou des mots qui vont impliquer avoir des conséquences négatives. Alors on a l'impression qu'on n'a rien fait de mal, on a juste un petit peu exagéré les choses, ou tourné les choses de manière ambiguë. J'ai l'impression qu'on est assez partie prenante de ceci, parce que si on fait l'éloge de quelqu'un, en général les gens doutent. Ah bon, d'accord, ouais, c'est à voir. Si on parle de quelque chose de négatif, tout le monde est d'accord. Alors il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ah ouais, alors j'en étais sûr. C'est quand même terrible. Mais on remarque ça, c'est la facilité avec laquelle on veut bien croire les choses négatives sur les autres et la difficulté avec laquelle on veut bien croire que des gens sont des gens bien. Donc ici, le lâcher prise aussi représente un acte de liberté. Prise de conscience, évidemment, et un acte de liberté. Je pense qu'un des exemples les plus frappants de la moralité est donné par Martin Luther King. Certainement beaucoup d'exemples dans sa vie, mais lorsqu'on avait mis une bombe dans son église à Birmingham, en Alabama, et que 4 petites filles étaient mortes, alors évidemment toute la communauté était vraiment en colère, prêt à en découdre avec le shérif. Et Martin Luther King, dans son sermon, il a avec évidemment sa force extraordinaire, et cette manière de parler qu'ont les prédicateurs, de dire qu'il ne donnera pas lieu à la violence, qu'il n'allait pas être conduit dans la violence. Ça, c'est exactement la dimension de la moralité. Là, on peut se dire qu'il y aurait eu des raisons qu'il a laissé tomber. Les intentions qu'il aurait pu avoir de nuire. Vraiment dans le sens d'une plus grande liberté. Ici, non seulement moralement, mais politiquement, c'était judicieux. Pour évidemment citer d'autres exemples, il y en a qui sont des exemples extrêmement parlants de situations où on pourrait s'imaginer la réaction la plus immédiate serait une réaction de colère, de violence. Il n'y a pas de violence. On trouverait évidemment ça dans l'exemple du Mahatma Gandhi, mais d'autres aussi, des gens moins célèbres, moins connus, dont on parle moins. Ce ne sont pas des exemples de saints qui nous intéressent moyennement, si vous voulez, en tout cas moi moyennement. Moi, j'aime mieux les gens qui se comportent simplement dans la dimension humaine, mais qui sont des exemples de liberté, qui montrent quelle est la voie de la liberté. D'ailleurs, cette tendance qu'on aurait à vouloir réagir par violence à un acte d'injustice ou autre est utilisée dans la politique, dans les conflits, de pousser l'autre à l'action pour finalement arriver à ses fins. Voilà donc comme exemple de la moralité. Il est important de saisir ces opportunités dans la vie quotidienne, même si évidemment ils ne sont pas aussi dramatiques que ceux que j'ai mentionnés. Dans le Dhammapada, le Bouddha dit la haine n'est pas apaisée par la haine. Et il est vrai que dans un rapport quelquefois conflictuel, disons au travail, eh bien, lorsque par rapport à une agressivité, on répond par une attitude noble, par une attitude qui n'est pas de l'ordre de l'agressivité, tout d'un coup quelque chose d'autre se passe. Alors que si on répond sur le même ton, on sent bien qu'il y a une sorte d'opposition et on ne sort pas de ceci. Donc un aspect extrêmement important de la pratique, toujours dans le sens d'aller vers une plus grande liberté. Le troisième aspect du lâcher-prise est donc la méditation, qui est le lâcher-prise de la confusion. Donc Patricia reviendra demain soir en détail sur cet aspect-là, mais je vais en dire quelques mots. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Mahasi Sayadaw, le grand maître birman, disait « Pourquoi est-ce que nous méditons afin de ne pas saisir ?» C'est intéressant parce que c'est très bref, mais on trouverait ceci dans toute la tradition bouddhique, chez les maîtres tibétains, on a de nombreux exemples, dans la tradition zen aussi, donc afin de ne pas saisir. Alors évidemment, on a tout dit, on n'a rien dit avec ça, qu'est-ce que ça veut dire saisir dans ce cas-là? Si on a compris saisir par rapport à la générosité, on peut bien comprendre qu'on s'accroche à son porte-monnaie, de manière très physique de saisir. Mais là, dans la méditation, qu'est-ce que ça veut dire, saisir? Et ne pas saisir, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Si, évidemment, on exclut le fait de saisir avec les dents ou avec les mains, qui est une manière de saisir les choses physiques? Mais dans la méditation, qu'est-ce que veut dire saisir? Qui est synonyme de confusion, puisque le lâcher prise dans la méditation, c'est le lâcher prise à la confusion. La manière de saisir par l'esprit, c'est par le concept. La seule manière qu'on a de saisir. Donc le lâcher-prise dans la méditation, c'est un lâcher-prise au concept. Je vous donne un exemple. Si nous avons une expérience le matin ou le soir, n'importe quelle expérience, soit visuelle, auditive ou gustative, eh bien cette expérience, il est impossible de la garder. Elle dépend de tous les aspects physiques qui sont dans l'instant. Impossible d'écouter un son au passé ou au futur. Il est possible que ce soir je sonne seconde, mais vous ne pouvez pas l'entendre maintenant. Ou il a dû être sonné à 6 heures. Vous l'entendez? C'est impossible. On ne peut pas faire une expérience sensorielle au passé ou au futur. On ne peut pas la garder. La manière qu'on a de la garder, c'est de la transformer, d'en faire une image, d'en faire une... transformer en information qu'on peut garder, mais jamais l'expérience. Et cette manière de transformer une expérience en quelque chose que l'on peut garder, transmettre, accumuler, c'est le concept. Le concept ou l'image, on parle du concept d'une manière générale ici, et alors ce qu'on va pouvoir ramener, c'est l'image de l'expérience, le concept de l'expérience. Et ceci, on peut s'y accrocher. Les gens qui s'accrochent à leur passé, on s'accrocher à leur passé comme ça, il est nulle part, mais on peut s'accrocher à des images du passé. Et à ce moment-là, constamment être prisonnier de cette saisie d'images du passé, ou d'anticipation du futur. Donc dans la méditation, il s'agira essentiellement de prendre conscience de la manière dont on saisit l'expérience à travers un concept. Et le fait que si on ne s'arrête pas au concept, on reste dans l'expérience, à ce moment-là, on est libre de saisie et il n'y a pas de confusion. On a exploré un peu avec l'audition, et là, c'est peut-être assez clair. Je dis ça pas nécessairement que c'est toujours clair, mais si on est simplement dans l'audition, d'abord, on ne peut pas la garder, on ne peut pas la conserver, mais il y a là une intimité avant que surgisse le concept de la source du son. Il y a là une sorte de qualité particulière, mais qui ne peut pas être conservée, qui est là à l'instant où elle est là, dans cette intimité. Dès qu'on saisit cette expérience, soit en nommant la source du son, soit en disant « Ah, c'est bien, c'est chouette, c'est super, ou c'est terrible, je ne sais pas », dès qu'on veut la saisir d'une certaine manière, il n'y a plus cette intimité. À ce moment-là, on a solidifié l'expérience et il y a confusion. Donc dans la méditation, il s'agira pour nous de ne pas confondre le concept et l'image de l'expérience avec l'expérience elle-même. On ne va pas partir contre l'image de l'expérience ou le concept, on va simplement pas prendre l'image ou le concept pour l'expérience. Et c'est ce qui se passe en général, on prend l'image ou le concept pour l'expérience. Alors on a de la peine à être en intimité avec l'expérience, on se dit, mais je comprends bien, ça a l'air assez intéressant cette histoire d'intimité, mais comment est-ce que je fais? Et alors on met un effort dans l'image, parlons de quelque chose de simple, l'image corporelle, je pourrais avoir l'image, une vague image d'ailleurs de mon abdomen, et j'ai envie de sentir plus clairement ce qui se passe, et si je fais un effort en essayant d'être plus clair dans l'image, tout l'effort que je mets, il est dans l'image et non pas dans la sensation corporelle. Et plus je fais d'efforts, moins je ressens ce qui se passe. Ici, parce que je confonds l'image, complètement mentale d'ailleurs, et la sensation corporelle elle-même. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous conceptualisons les expériences. De très bonnes raisons, des raisons utilitaires. Une personne qui ne pourrait pas faire ceci, elle ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas une sorte de jugement sur lequel on s'attacherait, c'est pas bon la conceptualisation, c'est pas bon l'image de l'expérience, pas du tout. Mais on voudrait aussi avoir l'opportunité, par moment, de ne pas être dans cette confusion qui confond l'expérience ou l'image avec l'expérience elle-même. Découvrir une autre manière d'être que d'être toujours dans l'utilitaire où il faut qu'on en fasse quelque chose. Et c'est ce que veut dire intimité, puisqu'on l'a quand même répété à de nombreuses reprises. L'intimité, c'est justement être dans l'expérience sans la médiation d'un concept ou d'une image. Ça paraît un peu abstrait comme ça. Et toutes les indications que l'on donne dans la méditation sont pour essayer de nous ouvrir à cette possibilité. La détente, l'absence d'objectif, l'ouverture, le fait d'accueillir, tout ceci est des manières de s'ouvrir à l'expérience elle-même et de ne pas s'arrêter à une transposition de l'expérience dans un concept. Quand on parle d'expérience et d'intimité à l'expérience, ça veut dire une intimité avec soi-même. Être pleinement soi-même ou pleinement conscient. Pleinement existant, quelles que soient les manières dont on voudrait parler. Donc, lâcher prise à la confusion, c'est-à-dire à la confusion du concept, de l'image et de l'expérience. Voilà ce qui se passe dans la méditation. Donc les mêmes enjeux, peut-être un peu plus fins, un petit peu plus subtils dans la méditation, il est vrai, c'est pour ceci qu'on a besoin d'une sorte de cadre assez protégé et tranquille pour pouvoir s'engager dans cette exploration qui peut être par moments extrêmement subtile. Mais néanmoins, si on est dans une saisie extrêmement grossière, dans l'attachement au bien qui empêche la générosité ou dans le fait de vouloir nuire, alors la subtilité méditative, évidemment, a peu d'impact sur notre liberté quotidienne. Voilà donc quelques réflexions sur la manière de voir le chemin spirituel qui englobe tous les aspects de la vie quotidienne, le rapport à autrui, dans la générosité, l'ouverture ou dans l'absence de nuire, et puis la confusion que l'on peut explorer de manière plus fine dans la méditation. Mais les trois aspects sont importants. Les trois aspects ont le même pouvoir de contrainte, donc les trois aspects sont à reconnaître, à explorer si on est concerné par la liberté.